Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci déjà pour votre accueil. C'est avec vraiment plaisir que nous sommes arrivés ici en Tunisie. Et lorsque nous avons vu l'accueil qui nous était réservé, on s'est dit, on est vraiment à la place où Dieu nous veut. On était accueillis vraiment d'une façon royale, on peut le dire. Notre roi nous a accueillis au travers de ses serviteurs. Et on bénit Dieu parce que nous avons trouvé déjà en arrivant une famille. La famille de Dieu. Alléluia. Alors, je ne vais pas ce matin vous donner mon témoignage, je vous le donnerai plus tard, mais ce que nous voulons vous dire avec mon épouse, c'est que nous sommes très heureux de venir servir le Seigneur ici, en Tunisie, que le Seigneur nous garde. Vous savez que depuis que nous sommes arrivés, eh bien, nous avons roulé en voiture dans les rues et dans les routes en Tunisie. Et le Seigneur nous a gardés. J'aimerais vous dire que le Seigneur nous a déjà protégés au moins de 12 accidents. Et c'est une grâce que nous sommes là devant vous ce matin. C'est vraiment une bénédiction pour nous d'apporter la parole. C'est une bénédiction pour nous de pouvoir ouvrir cette parole. Alors j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Nous ne sommes que des instruments. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Alors si vous ne voyez pas la personne, c'est bien. Si vous entendez la parole de Dieu, c'est mieux. Amen. Des serviteurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais Dieu se sert de nous. Dans sa grâce. Amen. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? Alors, quelle série on voit? Dites-moi. Notre Père. Et qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? Donne-nous notre pain quotidien ou de ce jour. Est-ce que le Seigneur a failli dans sa promesse en disant qu'il pourvoirait? Il n'a pas failli. Et j'étais interpellé parce que le pasteur a dit en fin de prédication, vous savez, il a utilisé un sigle, R-D, est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire? Alors, reconnaissance, dépendance, contentement. Nous sommes des enfants de Dieu, est-ce qu'on va se contenter de ce que le monde peut nous offrir ou est-ce qu'on va plutôt se contenter de ce que Dieu nous offre? Dieu nous offre tout et on va le voir. On va le voir ensemble. Dieu nous offre tout dans sa parole. On a tout pour être heureux. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il a prévu le meilleur pour nous. Alors, j'aimerais lire avec vous le texte de Matthieu 6. Matthieu 6, Jésus nous enseigne la façon de prier, du verset 9 au verset 15. Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et voilà ce qu'il va nous focaliser ce matin. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors quand j'ai su que j'allais prêcher là-dessus, j'ai dit aux frères, mais ce matin je disais à Freddy, mais comment tu veux qu'en 30 minutes, je prêche là-dessus, c'est tellement fort, c'est tellement grand, c'est tellement riche. Pardonne-nous nos offenses, ça mériterait déjà toute une prédication, même une série de prédications. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quelque chose qui est tellement étendu, tellement vaste. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce verset 12 est vraiment lié aux versets 14 et 15. Alors, je n'ai pas la tâche facile ce matin. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. On a l'impression qu'il y a un lien de cause à effet, n'est-ce pas? Un lien de cause à effet. Il y a un livre que j'ai lu il y a bien des années, et il y en a qui aiment lire autre chose aussi que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est tous les jours, mais... Est-ce que vous lisez aussi des bons livres d'édification ou d'études? Il y a des années, j'ai lu un livre qui s'appelle, peut-être vous l'avez lu, « Le pardon, une puissance qui libère ». Ça veut dire que si on ne pardonne pas, on est enchaîné, on est lié. Et ce livre, qui avait été écrit par Samuel Azakortsian, est disponible à la vente dans toutes les librairies chrétiennes. Et peut-être si vous avez Internet, vous pouvez commander sur Internet, mais je vous invite à lire vraiment ce livre parce qu'il nous ouvre les yeux sur la puissance du pardon. Il y a des années de cela, j'étais au collège, bien des années. Et est-ce que vous vous souvenez des noms des collégiens qui étaient avec vous? Honnêtement, est-ce que vous vous souvenez des noms des collégiens qui étaient avec vous? Peut-être certains. Exactement, les turbulents. Et moi, j'ai fait l'expérience. Mais pourtant, ce n'était pas un turbulent de ma classe, il était dans une autre classe. Mais il me menaçait, il voulait me frapper. Je me souviens de son nom, Cyril Sautreuil. C'était la bête noire. Et il faisait au moins... J'étais pas gâté par la nature à l'époque parce que moi, j'ai grandi plus tard. Hein. Et au collège, j'étais petit. Et il te dépasse d'une tête, et il t'impressionne, et il te menace, et toi, tu peux rien faire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai prié pour lui chez moi. J'ai prié pour lui. Jour après jour, j'ai prié pour lui. Et j'ai vu l'action de Dieu. Je ne l'intéressais plus, j'étais plus son souffre-douleur, il ne voulait plus de moi, il ne voulait plus me voir, il ne voulait plus m'influencer, il voulait plus, il n'avait pas cette volonté de me frapper. Pourquoi? Parce que j'avais prié pour lui. Et ce matin, on a lu des choses importantes, n'est-ce pas, dans Matthieu 5. Et Dieu nous invite à prier pour ceux qui veulent nous faire du mal. Parce que la puissance de la prière est bien plus forte que ce que nous pourrions faire en retour d'un acte malveillant à notre égard. Et puis, bien des années plus tard, j'ai travaillé. J'ai travaillé comme soudeur sur machine semi-automatisée dans les chantiers navals au Havre, pour des chimiquiers danois. Et alors que j'étais en train de travailler, il y avait un de mes collègues qui avait mal parlé sur moi en disant « Voilà, cet homme, Émeric Philippe, il a parlé mal sur ta fille à toi. » Je ne connaissais même pas sa fille. Mais c'était par malveillance. Et cet homme qui était colérique, eh bien, il s'est emparé de cela, il est venu vers moi, il a dit ouais, « Qu'est-ce que tu as dit de ma fille ?» Il a commencé à me frapper dans l'atelier. Et j'étais là. Là, j'avais grandi. J'étais plus grand. Je travaillais dans un atelier, donc bon. Et là, j'étais crispé comme ça. Vous voyez quand on voit le blanc qui se met là, tellement on a les poings qui se serrent. Et j'avais tout à disposition à l'atelier. Clé à molette, marteau. Et vous souriez, mais j'étais en proie à quelque chose de fort. Je dis, Seigneur, il vient de me frapper, je vais répondre. Je vais prendre un marteau, je vais prendre une clé à molette et il va voir ce qu'il va voir. J'étais prêt à le faire. Et Dieu m'a dit, ne fais surtout pas ça. Calme-toi. J'ai pris sur moi. Je suis rentré chez moi comme humilié parce que je n'ai pas répondu humainement. J'ai prié pour cet homme et cet homme ne m'a plus jamais adressé la parole. L'ironie, c'est que sa fille que je ne connaissais pas a vécu des temps difficiles. Et des semaines plus tard, il est venu me voir, mais non plus avec la même intention, en me disant, je sais que toi tu pries Dieu, est-ce que tu peux prier pour ma fille? Voyez comme c'est fort. Et pour dire cela, mais dans ce contexte-là, j'avais un surnom à l'atelier. On m'appelait, ouais, c'est Jésus, lui. Vous savez, un petit peu avec dédain, ah, lui, c'est Jésus. Eh bien, gloire à Dieu, le nom de Jésus a été honoré. Amen. Dieu nous demande de pardonner, comme il nous a pardonné. Et ça doit aboutir à une situation de bénédiction. Mon grand-père s'est converti à l'âge de 92 ans. Pendant 50 ans, ma grand-mère a prié pour lui. Il s'est converti 2 semaines avant de mourir. Il était violent. Et l'un de mes oncles a terminé schizophrène parce qu'il s'opposait toujours à la violence par rapport au grand-père sur les autres enfants. Ma grand-mère a prié pour lui et elle aurait pu le haïr, elle aurait pu divorcer, elle aurait pu s'en aller. Elle a prié pour lui, elle a tenu ferme et gloire à Dieu, aujourd'hui il est dans le ciel parce qu'il a donné son cœur au Seigneur. Vous savez, tout ça c'est la puissance du pardon. Jésus donne ici un avertissement quelque peu surprenant en rapport avec le pardon. Alors pourquoi cela? Parce qu'en refusant de pardonner, nous nions notre propre état de pécheur et notre propre besoin de la grâce divine. Le pardon de nos péchés n'est pas la conséquence directe du pardon que nous accordons à notre prochain, mais il est fondé sur la compréhension de ce que cet acte de grâce signifie. Parce que pardonner, c'est un acte de grâce. Amen. Vous savez, des gens, ils vous disent, « Bon, je te pardonne, mais je n'oublie pas. » Est-ce que ça s'est pardonné? Est-ce que le Seigneur se souvient de nos péchés? La Bible nous dit que quand Dieu nous pardonne, il jette nos péchés, où ça? Au fond de la mer. Est-ce que vous avez déjà visité le fond de la mer, vous? Il y a des abysses. Dieu oublie nos péchés quand on lui demande pardon. J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Voilà. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Pardonnez-vous réciproquement. Faites-moi un geste pour expliquer réciprocité. Pardonnez-vous réciproquement. Il doit y avoir une intention de chaque côté, de mon côté, de votre côté, de votre côté, de mon côté. Pardonnez-vous réciproquement. Prenons l'exemple de Jésus qui raconte la parabole du serviteur débiteur. On va prendre ensemble dans Matthieu 18, versets 31 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» On peut dire aussi à ma sœur. Hein, « Lorsqu'il péchera contre moi, est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» D'abord, on s'arrête. Vous avez remarqué ? Combien de fois pardonnerai-je à quelqu'un qui m'a fait du mal à moi ? Comme si tout était autour de nous, comme si tout était pour nous. Est-ce que nous, des fois, on n'a pas fait du mal à quelqu'un ? Mais là, Pierre, il dit, mais combien de fois ? Et vous savez que normalement, la tradition des rabbins dit qu'on doit pardonner 3 fois à son frère. Pierre, lui, va beaucoup plus loin. Il dit, moi, je donne le chiffre parfait parce que je suis un bon disciple, je suis un bon apôtre, et voilà, il faut pardonner 7 fois. Waouh, 7 fois ! Vous avez déjà pardonné 7 fois à quelqu'un qui vient vous voir dans une journée, vous ? Et qu'est-ce que dit Dieu ? Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait combien, ça ? 490 fois. Mais il ne dit pas ça pour le chiffre. Il dit ça parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient vers toi d'un cœur sincère pour te demander pardon, s'il n'est pas sincère, c'est autre chose. Hein. Mais s'il vient vers toi d'un cœur sincère, tu dois lui pardonner. Et quand on pardonne, il y a bien des situations qui s'améliorent, n'est-ce pas ? On continue ? C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Vous allez voir que c'est impossible qu'il paye tout. Hein. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, il lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Il dit la même chose. Hein. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Écoutez bien ça. Ça c'est pour nous. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Est-ce que nous aussi on n'a pas bénéficié du pardon de Dieu ? Est-ce que nos actes étaient jolis, jolis à voir. Si on pouvait les afficher au vidéoprojecteur, est-ce qu'il y en a... Tout le monde s'en irait de cette salle, n'est-ce pas ? S'il s'agissait de soi. Mais Dieu nous a pardonnés. Et parce que Dieu nous a pardonnés, parce que nous savons quelle est la valeur du pardon de Dieu pour nous, nous devons nous aussi pardonner à notre frère ou à notre sœur. On continue. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé ce qu'il devait. Voilà. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Comment il nous traite? Si on ne fait pas ça, on est livré au bourreau. Il y a un symbole, n'est-ce pas, d'une souffrance éternelle si on ne pardonne pas. Voilà ce qu'on lit, voilà ce que le Seigneur nous donne. Alors, il y en a un qui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est l'équivalent de 100 jours de travail, c'est ça? Un denier égale un jour de travail. Celui à qui le roi a fait grâce, vous savez combien il devait? 10 000 talents. Ça fait combien 10 000 talents? 600 000 fois plus que les 100 deniers que le deuxième serviteur devait au premier serviteur. 600 000 fois! Alors quand il dit « Oui, prends patience, je te paierai tout », c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, ici on le voit, j'ai regardé, en moyenne on vit 80 ans, c'est ça? 80 ans, ça fait combien en jours? Ben, j'ai regardé à peu près 29 200 jours. Si vous vivez 100 ans, vous vivez à peu près 36 500 jours. Hein? Ok? Et là, il doit 600 000 fois plus. Alors, il aurait fallu 60 millions de jours, quelque part, pour rembourser ce qu'il devait. Notre dette envers le Seigneur est incommensurable. Et pourtant, il nous a pardonné. Et il nous a libérés de cette dette. Alléluia! En tant que chrétiens, nous devrions pardonner aux autres, tout comme Dieu nous a pardonné nos péchés. Et si nous sommes conscients de la grandeur du pardon divin, eh bien nous ne pouvons pas refuser d'accorder le nôtre à quelqu'un. Ne pas pardonner, c'est nous placer au-dessus de la loi d'amour de Christ. Et on le voit dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, ou restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est quoi? C'est l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est un hymne à l'amour et au bienfait de l'amour. Vous savez, quand on aime, on pardonne. Quand on est animé de l'amour de Dieu, on pardonne. Dans Marc 11, 25, nous lisons, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. » On retrouve ici ce lien de cause à effet. Pardonner est si difficile que beaucoup seraient prêts à faire n'importe quoi plutôt que d'accorder leur pardon à ceux qui leur ont fait du mal. Pour un chrétien, prier tout en gardant rancune à quelqu'un, c'est comme porter des fleurs sans ensuite porter des fruits pour un arbre. Est-ce que vous savez qu'un arbre, il fait d'abord des bourgeons, ensuite des fleurs et ensuite le fruit? Mais si je ne pardonne pas, alors je peux me lever, je peux prier, je peux louer, je peux adorer. Il y aura comme des bourgeons et des fleurs, mais il n'y aura pas de fruits. Nous avons besoin, frères et sœurs, de vivre le pardon. La foi transforme le cœur. Si je crois dans les promesses de Dieu, alors je vais pardonner. Une prière authentique fait disparaître l'amour propre et le désir de vengeance pour les remplacer par l'amour. Une foi réelle recherche la paix, non pas la guerre. Si nous voulons voir la puissance de la prière à l'œuvre dans l'Église, nous devons veiller à y entretenir l'harmonie et le pardon. Vous savez, il y a quelques années de cela, j'étais en Bretagne en formation pastorale et il y avait là un homme que j'ai appris à connaître, Gérard Mussoni. C'est un pasteur qui est pasteur sur Nantes maintenant et un jour il a partagé son témoignage. Il vient du Rwanda et il me disait, tu sais, le jour le plus difficile de ma vie, ça a été après bien des années qui ont passé après le génocide, il est retourné au Rwanda. Il est allé en prison, et en prison, il a baptisé ceux qui avaient participé à l'assassinat de 18 membres de sa famille. Il a participé au baptême, il a baptisé des gens qui avaient tué les membres de sa famille. Est-ce que c'est humain? la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Mes frères et sœurs, faisons un trait sur nos blessures. Abandonnons tout ressentiment et pardonnons aux autres. Dieu nous pardonne en vertu de sa grâce. Plus nous comprenons ce que cette grâce signifie et plus nous aspirons à lui ressembler. Vous savez ce chant qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Et ça, c'est une réalité. Dieu nous invite à être ses imitateurs. Paul le dit, « Soyez mes imitateurs », il le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Plus nous aspirons à pardonner et plus nous lui ressemblons. Nous avons bénéficié de son pardon. Nous sommes disposés à accorder notre pardon aux autres. Vous savez que refuser de pardonner, c'est montrer que l'on n'est pas devenu un avec Christ. Lui qui pardonnait même ceux qui le crucifiaient, nous dit l'Écriture. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Et puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Waouh! Ils sont en train de lui mettre des clous. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur. Souvenez-vous d'Étienne, quand il est lapidé en acte 7, verset 60. Qu'est-ce qu'il va dire, Étienne? Comme son Seigneur, hein? Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne le charge pas, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Souvent on se dit, « Oui, mais ça, c'était Jésus. Il peut prier comme ça, mais un homme normal, il ne peut pas le faire. » Pourtant, Étienne, il l'a fait. Et il a été lapidé, la Bible nous dit qu'ensuite il s'endormit. Ça veut dire quoi? Il est mort. Mais il a prié comme ça, « Ne les charge pas de ce péché. » C'est quelque chose qui est fort dans le cœur de Dieu pour nous ce matin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est généralement plus facile d'implorer le pardon divin et plus difficile d'accorder le nôtre, n'est-ce pas? C'est facile d'arriver auprès de Dieu en disant « Oh Seigneur, pardonne-moi !» Mais est-ce que c'est facile d'accorder son pardon à quelqu'un qui nous a offensés. On va le voir ensemble. Qu'est-ce que veut dire le pardon? Qu'est-ce que veut dire l'offense? Lorsque nous prions le Seigneur de nous pardonner, demandons-nous si nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. On va lire un texte très important, et peut-être s'il y a un texte à retenir ce matin, c'est ce texte-là dans Luc 17, versets 3 et 4. Faites bien attention à vous-même. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde, ça? Oui ou non? J'étais sur la route, excusez-moi, en voiture, et puis j'ai hésité à tourner à droite, puis je me suis ravisé parce que la direction, c'était à gauche. Il y a un gars, il arrivait en voiture derrière, pourtant je n'ai pas fait un grand écart. Il m'a klaxonné, il s'est mis à côté de moi, il m'a regardé comme ça, puis il m'a fait. J'ai fait... Faites bien attention, ça y est. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi... Reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, ou s'il se repent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pardonne-lui. Pardonne-lui. Un autre exemple, celui de Luc 15. On ne va pas lire tout Luc 15, mais seulement les versets 29 à 32. La position du fils aîné. Mais il répondit à son père. Vous savez, c'est la parole folle du fils prodigue. Et nous, on met souvent l'accent sur le fils prodigue. Mais en fait, c'est le père prodige. Parce que le père, il attendait. Et quand le fils est revenu repentant, il lui a pardonné. Oui ou non? Ici, il dit, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, dit le frère aîné à son père, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, écoute bien, le père c'est Dieu, hein, ok? Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, voilà, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. La position du fils aîné le prive des biens qui sont là près de lui. Au verset 31, il dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Et en ne voulant pas pardonner son frère prodigue, eh bien le frère aîné est passé à côté des richesses de Dieu, il est passé à côté de la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ne lui ressemblons pas. Notre Père, il a tout, les richesses, les bénédictions. Mais des fois, on se prive de toutes ces bénédictions, de toutes ces richesses de Dieu pour nous. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons pas à pardonner à celui ou à celle qui nous a fait du mal. On passe à côté de l'abondance de Dieu. Mes frères et sœurs, ne passons pas à côté de cette abondance. L'attitude du Père contraste nettement avec celle du fils aîné, hein. Le premier pardonne parce qu'il est rempli d'amour, mais le second refuse de le faire parce qu'il trouve que c'est injuste. Et des fois on dit au Seigneur, ne vois-tu pas que c'est injuste ? Et Dieu dit, oh, je vois tout, mais toi, obéis à ce que je te demande. Et du fait de ce ressentiment, le fils aîné est aussi éloigné de son père que l'était son jeune frère avant son retour. Le manque de pardon nous éloigne de Dieu. Alors que rien ne nous empêche jamais de pardonner. En effet, le refus de pardonner nous empêche d'expérimenter une joie profonde et même de partager cette joie. Ne mettons pas de frein à notre joie. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Vous savez comment ça fonctionne ? D'abord, il doit y avoir un aveu des fautes. Il doit y avoir une repentance. Puis, ensuite, vient le pardon. Vous savez qu'au fil des siècles, de nombreux croyants accablés par la prise de conscience de leurs péchés ont trouvé un rayon d'espoir dans les paroles des psaumes. Parce qu'il y a des psaumes qui sont dits de pénitence ou de repentance. Et vous savez que dans ces psaumes-là, eh bien, on peut faire l'expérience de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est bon, quand on s'approche de Dieu, de reconnaître nos fautes ? Oui ou non ? Si on reconnaît nos fautes, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? Il est fidèle et juste. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia ! Est-ce qu'on peut se réjouir du pardon complet que Dieu a en réserve pour nous ? Est-ce qu'on peut se réjouir de son action ? Est-ce qu'on peut se réjouir qu'une fois qu'on a confessé nos péchés, eh bien nous pouvons bénéficier de cette grâce divine ? Vous savez, nous vivons après le sacrifice de Jésus à la croix, n'est-ce pas ? Et on peut encore plus se réjouir. Parce que Dieu a prouvé sa volonté de nous pardonner en exerçant son jugement contre le péché à la croix. Jésus a été fait péché pour nous. Vous imaginez ça ? Lui qui n'a jamais péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous puissions hériter le pardon et la vie éternelle. Les autres psaumes suivent un modèle bien défini. Je ne vais pas rentrer dedans, j'avais prévu de rentrer dedans ce matin, mais ça sera trop long. Et on voit que simplement il y a une prise de conscience, il y a une repentance, pas simplement des regrets, mais une repentance sincère, et ensuite il y a un pardon. Citez-moi un psaume qui vous a marqué, qui parle de repentance et de relèvement. Waouh, il y en a un. Si je vous dis David, quel psaume ? 51. C'est pas la zone 51. Hein ? Le psaume 51 est un psaume extraordinaire. On va juste lire les 6 premiers versets. Il dit au chef de cœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Il reconnaît qu'il a mal agi. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi. » Relisez Luc 15 et vous apercevoir que c'est les mêmes paroles, hein, du fils prodigue envers son père. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Amen. Qui peut dire, « Seigneur, avant que tu me pardonnes, j'étais déjà pas mal. J'étais déjà presque bon pour entrer au ciel. » Mon frère, ma sœur, si tu as ces pensées-là, tu as vraiment besoin de te repentir, de venir là, de fléchir les genoux, y compris pour toi. Sans l'œuvre de Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas hériter la bénédiction et la vie éternelle. Tu sais, il y a un autre passage, parce que souvent on dit, oui, David, il a fait ça, il a mal agi, il a tué en commanditant le meurtre du mari, etc. Ça, c'est quelque chose d'effroyable, n'est-ce pas? Et vous savez que depuis ce moment-là, la maison de David n'a pas été tranquille. Parce qu'il y a une conséquence au péché. Mais lisez avec moi dans 1 Chronique 21:8, qu'est-ce que nous dit David? Vous savez, il est question ici du dénombrement d'Israël. David a voulu savoir combien de personnes étaient à sa disposition et il s'est enorgueilli en disant, mais si aujourd'hui mon royaume est tel qu'il est, c'est parce que nous sommes une grande armée. Il compte sur les moyens humains au lieu de s'appuyer sur Dieu. C'est un péché d'orgueil. D'ailleurs, Joab, le chef de l'armée, dit, mais ne fais pas ça, il va le faire quand même. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans 1 Chronique 21:8 ? On ne le voit pas peut-être. 1 Chronique 21, verset 8. Je ne sais pas si on l'a. David dit à Dieu, merci. J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dites avec moi. Veuille pardonner la faute de ton serviteur. Car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Alors, Dieu va pardonner, mais il va y avoir une conséquence à son péché. Quelle est cette conséquence? Il va devoir choisir entre trois choses, mais trois choses terribles. 3 ans de famine. 3 mois où les adversaires auront le dessus sur lui, ou 3 jours avec l'ange destructeur et la peste. Et sur 1 570 000, en 3 jours, 70 000 meurent à cause du péché d'un homme. Mes frères et sœurs, réalisons bien qu'à cause d'un péché, des gens peuvent souffrir. Des gens même peuvent mourir spirituellement. Et Dieu nous invite à pardonner. Dieu nous invite à exercer le pardon comme nous avons été bénéficiaires du pardon de Dieu. Dans Hébreux 9, 22, il est dit, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Et nous pouvons bénir Dieu parce qu'au travers du sang de Jésus qui a coulé à la croix, il y a le pardon qui est possible. Alléluia! Il n'y a aucun symbole plus grand pour la vie que celui du sang, puisque c'est lui qui nous permet de vivre. Jésus a versé son sang, il a donné sa vie pour nos péchés, afin que nous n'ayons pas à subir la mort spirituelle. Et après avoir versé son sang pour nous, il est sorti du tombeau et a proclamé la victoire sur le péché, sur la mort. Alléluia ! Vous savez, Dieu non seulement est grand, mais il est puissant pour pardonner, pour laver, pour purifier, pour rétablir. Je termine. Je ne sais pas combien de minutes il reste. Hein. Zéro. Pardonne-nous nos offenses. C'est quoi le pardon? Dites-moi, c'est quoi le pardon? Est-ce qu'on peut mettre des mots les uns derrière les autres pour expliquer le pardon? Personne pourrait me dire ce que c'est le pardon? Libérer quelqu'un. Alors, libérer quelqu'un et se libérer soi-même aussi, hein? Oui. Le pardon, c'est Jésus qui l'a exercé en premier. Jésus a pardonné, et on le voit dans les évangiles, il a pardonné au paralysé qui était descendu du toit, oui ou non? dans Matthieu 9. Il a pardonné à la femme adultère dans Jean 8. À la femme qui a versé du parfum sur lui dans Luc 7. Jésus a pardonné à Pierre qui l'a renié ou qui a nié le connaître. Est-ce que vous auriez pardonné, vous, à quelqu'un qui vous a suivi pendant des années et qui a nié vous connaître avec des imprécations? Jésus, lui, il a pardonné. Jésus a pardonné au brigand sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui a pardonné. À ceux qui l'ont crucifié, on l'a vu tout à l'heure, dans Luc 23, il a pardonné. Mes frères et sœurs, à tous ceux et celles qui se sont tournés vers lui pour avouer et délaisser leurs péchés, Dieu pardonne. 1 Jean chapitre 1, verset 9, on ne se lassera pas de le dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce qu'au ciel on pourra rentrer avec nos péchés? Est-ce qu'on pourra entrer avec nos souillures? Non, on a besoin d'être lavé, purifié. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner fréquemment sur le pardon, mais il a aussi prouvé qu'il savait pardonner. Et aujourd'hui encore, Jésus veut pardonner. Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas. » De pardonner. Vous savez que pardonner, c'est renoncer à sanctionner quelqu'un de coupable. On était tous coupables. Et Jésus a refusé de nous sanctionner. Il a pris sur lui le châtiment, afin que nous puissions avoir la grâce et la bonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a pardonné? Nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Qu'est-ce que c'est qu'une offense? Vous savez qu'il y a des années, il y a des siècles même maintenant, quand quelqu'un vous mettait au défi ou bafouait votre honneur, vous vous battiez en duel. Alors avant avec les épées, puis après avec les armes à feu. Et souvent ça se terminait par la mort de l'un ou de l'autre. Et parce que le sang était versé, l'honneur était sauf. Qui c'est qui a pris notre place? Qui c'est qui a versé son sang pour nous? C'est Jésus. L'offense, c'est porter atteinte à la dignité de la personne. Et nous avons tous porté atteinte à la dignité de Dieu à cause de nos péchés. Mais il est venu pour pardonner nos offenses. Père, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire, j'en ai bénéficié, j'en ai fait l'expérience, j'en ai eu le bénéfice, maintenant c'est à moi de pardonner. Soyez mes imitateurs, dira l'apôtre Paul encore une fois. Et je termine, Éphésiens 2:5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Romains 5, 18 et 20. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Vous savez que Adam et Ève ont péché contre Dieu dès le commencement, oui ou non? Oui ou non? Ah oui. Et nous, on faisait partie d'eux. Hein? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Grâce au sacrifice de Jésus, grâce à l'effusion du sang, du Saint, alors nous pouvons être pardonnés. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce surmontait le mal par le bien, nous dit l'Écriture. Mes frères et sœurs, nous allons baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et ce matin, je suis convaincu, je suis même sûr qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a besoin d'expérimenter le pardon de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré d'un ressentiment qu'il a contre un frère ou contre une sœur. Mon frère, ma sœur, tu es travaillé dans ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui te ronge, parce que tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et j'aimerais te donner la possibilité ce matin, non seulement de te mettre en règle, mais de recevoir toi aussi le pardon de Dieu et d'être délivré. Alors pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je ne vais pas vous demander de vous approcher sur le devant, mais là où vous êtes, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève la main là où tu es à ta place. Et dans cette intimité, dans un moment solennel devant Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu. Alors le Seigneur verra ta main et nous allons prier pour toi. Ce matin, ne laisse pas l'adversaire te fermer la bouche. Ne laisse pas l'adversaire te voler la bénédiction de Dieu. Levez bien haut la main, vous qui avez besoin de prière. Alléluia, amen, alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez baisser votre main. Alléluia, merci Seigneur. Oui, oui, alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin, dans ta maison. Nous sommes venus chercher, Seigneur, ta présence. Ta présence. Seigneur, tu vois ces âmes qui sont touchées, ces âmes qui ont reçu une parole de ta part. Seigneur, tu viens les visiter, Seigneur, dans ces rangs. Ils ont levé la main devant toi. Toi, tu les as vus, Seigneur. Et tu désires ce matin, Seigneur, répandre ton sang, Seigneur, sur leur âme. Répandre ton sang, Seigneur, sur leur âme qui est altérée, qui est sèche parce qu'il y a du ressentiment. Mon frère, ma sœur, toi qui as levé la main ce matin, sache que Dieu te libère. Parce que tu as confessé que tu avais besoin de lui. Parce que tu as confessé ton péché. Parce que tu t'es repenti. Dieu veut faire venir sur toi maintenant la délivrance, la bénédiction. Tu peux continuer à marcher. Tu peux reprendre la marche. Tu peux à nouveau progresser dans les voies du Seigneur. Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ce matin, tu as dit « Oui Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai besoin de ton pardon. » Et ce matin, le Seigneur t'accorde son pardon. Reçois-le simplement et lève-toi pour adorer ton Dieu. Comme le disait notre frère tout à l'heure, notre frère Freddy, toute notre vie doit louer le Seigneur. Il ne doit pas y avoir de recoin dans nos vies où le Seigneur n'ait pas le droit de regard. Ce matin, ouvre ton cœur et laisse le Seigneur agir. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur.